Philippe Reva, Laurent Keller.
Et puis, on vous attend nombreux demain soir à Lausanne pour le grand débat des candidats vaudois au Conseil des États. Nous serons en direct et en public de la salle du Bicentenaire au Château à Lausanne. Verrez suivra, comme on dit.
Un accident industriel et non pas une explosion nucléaire. Voilà comment Électricité de France, EDF, qualifie l'explosion qui s'est produite ce matin dans un four de traitement de déchets nucléaires près du site de Marcoule, non loin d'Orange dans le Gard. L'accident a fait un mort et quatre blessés, même s'il n'a pas entraîné de rejet radioactif. L'accident ravive la polémique sur la sécurité nucléaire en France, un débat qui fait rage depuis la catastrophe de Fukushima. Joël Meskens.
Officiellement, tout est terminé. Aucune émanation radioactive ne s'est dégagée de l'enceinte. Il n'y a eu aucun rejet dans l'environnement. Personne n'a été évacué et aucune mesure de confinement ne s'est imposée. Le bilan est lourd, reconnaît le ministre de l'Industrie Éric Besson. Un mort et quatre blessés, dont un grave. Mais il ne s'agit pas pour autant d'autre chose que d'un regrettable accident industriel. Il n'en a pourtant pas fallu davantage pour déclencher la polémique. Le réseau associatif monte au créneau pour dénoncer une nouvelle fois les dangers du nucléaire. Le débat est aussi très politique. Les Verts réclament une transparence totale et la sortie de l'atome. Pour le gouvernement, pas question d'abandonner une filière qui produit plus de trois quarts de l'électricité du pays. À gauche, en revanche, c'est la division. C'est même l'un des rares sujets qui oppose sur le fond les favoris de la primaire socialiste. Pour François Hollande, sortir du nucléaire serait inconséquent. Mais Martine Aubry, elle, se dit favorable à un désengagement d'ici une trentaine d'années.
Merci beaucoup, Joël Meskens, en direct de Paris.
Oui, le débat nucléaire qui passionne aussi la Suisse en cette année électorale, à quelques semaines des élections. La Suisse qui regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France voisine. C'est un peu sur la route des vacances, ce centre de traitement. Karim Nissim est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur de l'EPFL, membre de Noé 21. C'est vous, hein, le lanceur de missiles sur Crémalville, oui. Super Phoenix à l'époque. Voilà qui dresse un petit peu le tableau avant de recevoir aussi Hans-Björn Puttgen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Energy Center de l'EPFL. Peut-être avec vous, Karim Nissim, pour qu'on comprenne. D'abord, c'est quoi ce centre nucléaire de traitement de déchets? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors d'abord, il faut bien situer ce site de Marcoule dans l'ensemble du dispositif nucléaire français. C'est un des deux sites, maintenant que Super Phoenix a été fermé, vous savez peut-être que Super Phoenix était un surgénérateur, ça risquait d'exploser, contrairement aux centrales comme Fukushima qui ne risquent que de fondre. Alors c'était un site extrêmement dangereux, il a été fermé il y a une dizaine d'années, il reste deux sites extrêmement dangereux, c'est celui de Marcoule et celui de La Hague. Et Marcoule, c'est là qu'il y avait trois usines, G1, G2 et G3, qui fabriquaient le plutonium des bombes françaises. Et ces usines sont en cours de démantèlement. Et aujourd'hui, on commence à démanteler, on commence en général par ce qui est moins radioactif et moins toxique. Et c'est en ce moment ce qui est en train de se passer. On démantèle ces trois usines qui fabriquaient du plutonium. Et on commence à les brûler dans ce four électrique qui vient de brûler maintenant, aujourd'hui.
La description.
Une description intéressante, parce que ça veut dire que ces trois usines qui fabriquaient du plutonium, il y a aussi une autre usine qui fabriquait du tritium, qui fabrique toujours. Ce tritium a une durée de vie très courte, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en refabriquer tout le temps. Et ce tritium était destiné aux bombes H françaises. Donc tout ça, c'est des installations militaires extrêmement dangereuses pour la population avoisinante. Ensuite, il y a Phoenix à Marcoule. Phoenix, c'est le petit frère de Super Phoenix, qui est le surgénérateur qui a été abandonné. Ça aussi, ça contient du sodium, du plutonium. Enfin, et c'est extrêmement dangereux. Et puis, il y a la fabrique de combustible MOX, qui est un combustible qui lui aussi contient du plutonium. Et je vous rappelle que le plutonium, c'est une des émanations humaines les plus dangereuses qui aient jamais été fabriquées.
Alors, Karim Nissim, avec nous Hans-Björn Puttgen, si vous le permettez. Vous avez écouté très attentivement Hans-Björn Puttgen. Est-ce que vous signez ce que vient de nous dire Karim Nissim? Vous avez la même vision un peu de la situation, des lieux?
Alors, la description de ce qui se trouve à Marcoule est juste. Il y avait effectivement ces trois réacteurs G1, G2 et G3, dont le dernier a été arrêté définitivement en 1984, donc il y a déjà longtemps. Il y a effectivement un réacteur qui s'appelle Célestin 1, qui fait effectivement du tritium. Donc la description de ce qui se trouve sur le site est correcte. Toutefois, l'accident qui a eu lieu ce matin, bien sûr regrettable, était utilisé pour traiter faire fondre, faire pas recycler, mais disposer de matériaux extrêmement faiblement réactifs. Il s'agissait en fait d'anciennes vannes, d'anciennes pompes, d'anciennes tuyauteries et de certains habits que les gens portent dans des centrales, donc à faible niveau de radioactivité qui était en fait fondu et retraité dans ce four.
Donc en somme, c'est plus ou moins rassurant, si je vous entends bien, Monsieur Puttgen.
Alors, je ne crois pas que s'il faut s'être rassuré. Il y a un mort, il y a un blessé grave qui a eu lieu lors de cet accident, donc il convient de regarder ce qui s'est passé. Je ne connais pas la technologie exacte du four. Je suspecte que c'était un chauffage à induction, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé d'éléments. Pourquoi ce
four? C'est un four électrique, en tout cas.
Karim Nissim, vous êtes d'accord avec ce que disent aussi les autorités françaises? Accident purement industriel, absolument pas accident nucléaire. On fusionne. Enfin, on faisait fondre du métal, des déchets,
voilà,
ce genre de choses.
Qu'on a repris dans ces anciens réacteurs qu'on est en train de démanteler depuis 1984, comme vous a dit le professeur Puttgen. C'est-à-dire qu'on est en train de démanteler des réacteurs qui fabriquaient des bombes. Et puis,
on ne fabriquait pas des bombes dans ces réacteurs.
On fabriquait du plutonium de qualité militaire.
En train de fabriquer effectivement des carburants qui étaient utilisés notamment pour des buts militaires. Ça, c'est exact. Mais le fait que ce four se trouve à Marcoule, il aurait très bien pu se situer parfaitement ailleurs. C'est plus facile de l'avoir sur place, effectivement. Mais c'est un accident industriel. D'ailleurs, les mesures qui ont été prises au point de vue aménagement de radioactivité dans la proximité même du site montrent qu'effectivement, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là au point de vue émission non plus.
Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si on a toujours envie de détruire Moscou ou New York avec des bombes au plutonium. Ça, c'est une vraie question.
Mais ça, c'est une autre question. Mais Karim Nissim, sur le fond, le fait que voilà, ce four a pu être ailleurs, finalement, ça n'a plus grand-chose à voir avec ou une centrale nucléaire ou un accident nucléaire.
Vous êtes d'accord avec ça? Non, enfin, oui et non. C'est juste et c'est pas juste. C'est toujours comme ça dans le nucléaire. Il y a toujours des contradictions internes.
Laisse terminer, Monsieur Nissim, si vous voulez bien.
Je vous en prie.
Oui, oui. En fait, si on décidait d'arrêter de fabriquer des bombes, on n'aurait pas besoin de démanteler on n'aurait pas besoin de fabriquer ces trois usines G1, G2 et G3, et puis du coup, on n'aurait pas besoin de les démanteler, et puis du coup, on n'aurait pas besoin de ce four électrique. Cela dit, c'est vrai qu'il semble que ce four électrique aurait pu être ailleurs, c'est vrai aussi.
Teddy Puttgen.
Alors, je crois d'une part, il faut se réjouir effectivement que ces réacteurs n'existent plus. Donc, historiquement, on peut se poser la question, auraient-elles déjà jamais existé? Ce n'est plus le débat aujourd'hui. Elles sont là, il faut les démanteler d'une façon ordonnée. Ce qui est en train de se faire, il faut s'en réjouir. Donc ça, je crois que c'est le premier aspect des choses. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut réellement regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur ce four. Mais encore une fois, il n'y a pas que des aspects militaires qui utilisent de ces habits, notamment que les gens utilisent au point de vue traitement.
Non,
il y a des utilisations
médicales
qui sont faites aussi. Et ces installations-là doivent aussi être démantelées, même si elles sont d'utilisation civile et médicale, et sont traitées dans ce genre, même genre d'installation également, sans aucun but militaire.
Karim Nissim, un conflit tout près de la frontière genevoise, un débat autour de polémique autour de l'installation d'une usine de traitement au Bugey, là, on peut comparer les deux sites ou pas du tout?
Oui et non. Disons que à Bugey, on va. Moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'à Bugey, on allait retraiter, enfin retraiter. Non, c'est pas vrai, on va pas retraiter. On va traiter des déchets radioactifs, faiblement radioactifs, provenant des centrales en cours de démantèlement, comme Brennilis, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ça.
Monsieur Puttgen, vous en savez quelque chose?
Ce qui est les questions de faire à Bugey, c'est effectivement du stockage intermédiaire pour des matériaux faiblement radioactifs qui résultent notamment du démantèlement de centrales. Mais il n'y aura pas de traitement à Bugey, il s'agit d'avoir...
Non, il n'y aura pas de retraitement.
...de stockage qui sera fait là-bas. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration, pas dans la même application que ce qui se passe à Marcoule.
À Marcoule, un accident qui a fait un mort et des blessés aujourd'hui. La France qui estime que c'est un accident industriel. Il n'y a pas eu d'émanation en tous les cas de radioactivité. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler quelques instants, Karim Nissim et Hans-Björn Puttgen. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonne soirée à vous.
Aussi. Au revoir.
Les bourses mondiales ont vécu une journée chahutée aujourd'hui, alors que la perspective d'une faillite de la Grèce refait surface. Wall Street a bloqué à l'ouverture des programmes d'achat automatiques pour éviter un mini-crack boursier, ce qui a permis de limiter la casse. Les bourses européennes perdent entre 2 et 4%. La pression allemande s'accroît sur la Grèce, tandis que les banques françaises mordent la poussière. Esther Coco.
La fronde est venue d'Allemagne. Philippe Rösler, le ministre allemand de l'économie, a déclaré dans la presse aujourd'hui que la possibilité possibilité d'une faillite de la Grèce ne devait plus être tabou. Un verrou dans le discours politique a donc sauté, même si par la suite, les propos rassurants sont tombés en cascade. « Nous ne travaillons pas sur cette hypothèse », a déclaré le commissaire européen aux affaires économiques, tandis que le porte-parole du gouvernement allemand a affirmé que les instruments en vue d'une faillite de la Grèce n'étaient actuellement pas disponibles. La chancelière allemande Angela Merkel et José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui se sont rencontrés aujourd'hui, ont réaffirmé l'importance extrême de l'euro pour l'Europe et pour l'Allemagne, marquant ainsi leur volonté de calmer le jeu, affirmant aussi que le fonds de soutien européen serait avalisé par tous les parlements nationaux d'ici fin septembre. Un fonds insuffisamment doté, selon les investisseurs, pour faire face à une contagion de la crise à l'Espagne et au Portugal. Face au marché, les Européens semblent donc encore une fois avoir une guerre de retard, alors que la Grèce serait à court de liquidités d'ici fin octobre. Et les banques sont désormais sous pression, à commencer par les Françaises, qui détiennent beaucoup d'obligations grecques. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole ont perdu entre 10 et 12% aujourd'hui à la Bourse de Paris.
Merci Esther Coco.
On a reçu tout à l'heure Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, pour lui demander si cette faillite de la Grèce semblait désormais inéluctable.
Oui, je pense que l'on va effectivement vers un défaut de la Grèce. Alors maintenant, est-ce que ce défaut va survenir dans l'immédiat ? Est-ce qu'il surviendra plutôt vers le mois d'octobre ou plutôt vers le mois de novembre ? On n'en sait encore rien. Tout cela va dépendre en fait de toute une série de jeux politiques et diplomatiques. Mais aujourd'hui, il est très clair que l'Allemagne ne veut plus payer pour la Grèce et elle sait que c'est elle qui devra payer l'essentiel des sommes que la Grèce devrait recevoir. Et ces sommes sont très importantes. Elles ont été calculées comme étant de 340 à 380 milliards d'ici 2018.
Jacques Sapir, il y a eu un accident nucléaire en France aujourd'hui et beaucoup d'économistes nous disaient ça, c'est vraiment l'option nucléaire, une faillite d'un État dans la zone euro, c'est la catastrophe. Est-ce que vous dites que c'est la catastrophe aussi ?
Dans un sens, oui, c'est bien sûr la catastrophe, parce qu'il est très clair que s'il y a le défaut ou la faillite d'un pays, ce pays devra dévaluer. Il devra sortir de l'euro, recréer sa monnaie, dévaluer sa monnaie. Et alors, ce n'est pas que la Grèce soit aussi importante que cela par rapport à la zone euro. Tout le monde sait que les dettes grecques représentent 3% des dettes de la zone euro, que le PIB de la Grèce représente à peu près 2% du PIB de la zone euro. Mais néanmoins, avec la faillite de la Grèce, on aura une spéculation extrêmement forte contre le Portugal, contre l'Irlande, contre l'Espagne et contre l'Italie. Et de proche en proche, nous verrons ces pays être obligés, eux aussi, soit de sortir de l'euro, soit de se déclarer dans l'incapacité de rembourser leurs dettes, soit les deux.
Mais si on attend un petit peu cette faillite de la Grèce et puis entre-temps on fait une sorte de mur pare-feu qui protège les autres pays, ça, vous y croyez pas, une défense de ce genre-là ?
C'était une option qui était possible quand la Grèce a commencé à avoir des problèmes, autrement dit en septembre ou octobre 2009. Si à ce moment-là, on avait dit, bon voilà, les problèmes sont structurels, la Grèce doit sortir de l'euro, quitte à y revenir d'ici quelques années, elle doit dévaluer pour retrouver sa compétitivité, et nous allons en fait sécuriser la zone par rapport à une sortie de la Grèce, oui, c'était une option tentable. Aujourd'hui, c'est une option qui n'est plus tentable.
Donc ça veut dire quoi ? La zone euro est morte pour vous ?
Je pense que dans sa forme actuelle, oui, la zone euro est morte. Alors maintenant, c'est une agonie qui peut être soit très rapide, si les pays en décident ainsi, par exemple, ça pourrait se régler en 2 ou 3 mois, ou ça peut au contraire durer sur un an et demi. Mais il est clair que l'euro, tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, ne résistera pas à cette crise.
Vous avez évoqué l'Allemagne comme étant en première ligne. Qu'en est-il de la France ? Les banques françaises, très exposées également à la dette grecque, qu'est-ce qu'elle risque la France ?
Alors, c'est vrai que les banques françaises sont très exposées à la dette grecque. En même temps, il faut voir que cette exposition n'est pas si importante que cela. Mais, et c'est là où il faut bien comprendre tout le problème, mais vous savez qu'on a fait des tests de résistance des banques françaises, comme des banques européennes, à une crise. Or, dans ces tests, qu'on appelle des stress tests, qui ont été faits en avril dernier, on a exclu des hypothèses la défaillance d'un pays. Or, c'est très exactement ce qui va se passer si la Grèce fait défaut. Et comme tous les opérateurs des marchés financiers savent que les stress tests ont été faits sans l'hypothèse du défaut d'un pays, ils considéreront tous que les résultats de ces stress tests ne sont pas valables, à à juste titre, et donc ils vont prendre leurs précautions par rapport à toutes les banques de la zone euro. Et c'est d'ailleurs ce que l'on est en train de voir se passer, car si vous voulez, les banques françaises ont perdu 10% aujourd'hui sur la bourse de Paris, mais les banques allemandes sont elles-mêmes très attaquées, les banques italiennes sont très attaquées, les banques espagnoles, en particulier les petites banques régionales, sont aussi très attaquées. Bref, c'est l'ensemble du système bancaire de la zone euro qui est attaqué.
Mais les gens vont plus se faire confiance, hein, les banques entre elles, les prêts interbancaires, les taux vont monter, il va de nouveau falloir intervenir de la part de l'État.
Oui, absolument. Et comme une nouvelle intervention de la part des États sera extrêmement impopulaire, parce qu'on a vu comment les banquiers se sont comportés quand on les a aidés en 2008, je pense que les États n'auront pas d'autre alternative que de nationaliser les banques.
Nationaliser les banques. En extrémité, il faudrait fermer les marchés, Jacques Sapir, parce qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Ce sera la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France aussi bientôt, pourquoi pas l'Allemagne, puis à la fin, le serpent se mord la queue.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, il faut savoir que nous ne sommes dépendants des marchés financiers pour ce type de choses que parce que nous le voulons bien. Si vous voulez, c'est l'Allemagne, et il faut le rappeler, qui a exigé que l'on introduise dans le traité de Lisbonne l'article 63 qui prévoit une liberté totale de circulation des capitaux. Un certain nombre de mesures techniques, qui seraient des mesures par exemple limitant la liberté de circulation des capitaux, interdisant certaines opérations, serait de nature à empêcher la spéculation.
Mais ce que les communistes ne sont jamais parvenus à faire, c'est les capitalistes eux-mêmes qui vont le provoquer malgré eux.
Oui, on peut dire ça, effectivement. Je pense que la nationalisation générale du système de crédit sera l'un des résultats de cette crise, et ce sera le résultat de cette crise parce que l'on n'a pas voulu prendre des mesures qui apparaissaient à l'époque comme des mesures révolutionnaires, entre guillemets, mais qui ne l'étaient pas tant que ça. On n'a pas osé prendre ces mesures il y a un an ou deux ans.
L'entente franco-allemande pour faire face à cette crise, Jacques Sapir, elle est solide ?
Non. Et c'est ça le principal problème, si vous voulez. On voit aujourd'hui qu'il y a des divergences de vues extrêmement profondes entre l'Allemagne et la France. Alors, il faut aussi comprendre la chose suivante, c'est que ces divergences de vues sont réellement centrées sur la question de l'euro. Elles ne touchent pas à la totalité des problèmes. Et donc, on peut aussi se demander s'il ne faudrait pas aujourd'hui sacrifier l'euro pour que survive d'une certaine manière, l'entente franco-allemande. Parce qu'on voit bien que si on maintient l'euro à tout prix, si on cherche à maintenir l'euro à tout prix, eh bien ce conflit entre la France et l'Allemagne va s'envenimer, et à partir de là, ce sont tous les points sur lesquels nous sommes d'accord qui pourraient être amenés à être révisés et à devenir après des points de désaccord.
Jacques Sapir, les déboires de la zone euro, du dollar aussi d'ailleurs, ça crée à contrario aussi des problèmes pour la Suisse, hein, qui va trop bien dans cet océan d'incertitude, on imagine, pour la Suisse, le franc suisse, ça va monter encore, c'est plutôt une mauvaise nouvelle hein, ce qui va se passer.
Oui, tout à fait. Alors, la Banque centrale de Suisse a décidé d'introduire un PEG, si vous voulez, un lien très fort avec l'euro, en fixant la parité du franc suisse à 1,20 francs suisses pour un euro. Bien. Mais dans les fonctionnements des marchés financiers, ce PEG, cette fixation du taux de change, ne peut valoir que si la banque centrale a les moyens d'acheter suffisamment d'euros par rapport au franc suisse. Et là, si vous voulez, si on a un affolement général sur les marchés, la masse des capitaux qui va refluer vers la Suisse sera telle que je ne pense pas que la banque centrale aura les moyens d'y résister et qu'elle sera devant le choix suivant. Soit elle introduit des contrôles extrêmement importants à l'entrée des capitaux, soit elle laisse le franc suisse se réévaluer avec des conséquences tout à fait désastreuses pour l'économie de la Suisse.
Tout le monde est dans le même bateau finalement.
Enfin, si vous voulez, je dirais que tout le monde est dans des bateaux différents, mais dans la même tempête. C'est ça, me semble-t-il, la meilleure métaphore.
Jacques Sapir, l'économiste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, que nous avons appelé tout à l'heure.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
18h22, dans ce forum, on sera immédiatement à Berne, en direct de notre studio du Palais fédéral, pour y recevoir Anthony Hodgers, le chef de groupe des Verts, et Jean-François Steyert, conseiller national socialiste fribourgeois. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
la succession de Micheline Calmy-Rey, qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. C'est le début de la session à Berne, ça le sera jusqu'au 14 décembre, jour de l'élection. Et puis il y aura le 23 octobre entre deux, qui risque de changer pas mal de cartes. Et puis déjà, un peu comme à chaque succession de conseillers fédéraux, on voit quelques petites tensions parfois entre Verts et socialistes. Les Verts qui aimeraient beaucoup que les socialistes les soutiennent un peu plus dans leur recherche d'une place au gouvernement. Antonio Edgers, on a lu plusieurs choses ici ou là. On a entendu Christian Levras sur notre antenne qui se plaignait déjà un peu que vous étiez un tant soit peu dur avec lui. Qu'est-ce que vous faites à vos alliés socialistes là? Vous êtes un peu, vous posez des conditions?
Non, mais disons que les Verts ont toujours soutenu les socialistes au Conseil fédéral. Et dans notre revendication pour obtenir notre propre siège, nous partons de la logique 2 plus 1, c'est-à-dire deux sièges socialistes, un siège vert. Mais évidemment, pour aboutir à ce résultat, qui serait quand même un renforcement des forces sociales et environnementales de ce pays, il faudrait que les socialistes disent aussi 2 plus 1. Et donc, finalement, ce qu'on attend un peu des socialistes aujourd'hui, c'est qu'ils disent clairement qu'ils vont soutenir la candidature des Verts pour un siège au Conseil fédéral, puisque cette candidature sera dirigée soit contre l'UDC, soit contre le Parti libéral radical. Donc, pour notre part, nous allons bien entendu soutenir le Parti socialiste pour son deuxième siège.
De toute façon.
Oui, a priori, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. On l'a toujours fait. Et évidemment que le Parti socialiste a totalement le droit à ce deuxième siège. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je sais que M. Levras aime bien victimiser sur ces questions-là, mais aujourd'hui, il n'y a aucun danger pour ce deuxième siège du Parti socialiste. Par contre, on aimerait bien que la réciproque s'avère, ouais, mais... c'est-à-dire que le Parti socialiste puisse dire à l'antenne, tout simplement, nous allons soutenir les Verts pour leur siège au Conseil fédéral.
On va voir ça tout de suite avec Jean-François Taillard. Mais juste avant, Antonio Edgers, en politique, vous le savez bien, c'est les rapports de force. Pour obtenir quelque chose, il faut ou mettre un peu de pression ou offrir quelque chose en échange. Vous, c'est ce qui vous manque, en somme. Hein, vous n'arrivez pas à le convaincre.
Disons, je ne sais pas... ça m'inquiète si, face au choix qu'aura le Parti socialiste, soit d'élire un deuxième UDC, soit d'élire un Vert, on doit déployer beaucoup d'arguments pour les convaincre. Mais malheureusement, c'est un peu ce que j'entends quand j'entends Christian Levras cette semaine qui dit qu'il faut donner un deuxième siège à l'UDC et dans le même temps, il n'évoque même pas la possibilité de donner un siège au Vert. Ça me choque, ça m'attriste. Mais c'est comme ça, malheureusement. Aujourd'hui, c'est vrai que le Parti socialiste donne plus des signes de garantie à l'UDC auquel finalement un parti auquel tout oppose le Parti socialiste et ne donne pas de signe de soutien à son partenaire naturel que sont les Verts. Donc je trouve cette situation un petit peu paradoxale et c'est vrai que je pense que les élections fédérales aurait gagné à avoir une déclaration beaucoup plus claire et beaucoup plus ferme de la part des représentants du Parti socialiste dans leur soutien aux revendications des Verts.
Oui, Jean-François Saillard, il n'y a pas que les Verts qui attendent ça, il y a peut-être aussi votre électorat. Hein. Vous êtes plus prompt à donner des gages à l'UDC qu'aux Verts?
Je dirais pour quelqu'un qui se gauze un tout petit peu du Parti socialiste ou de son président un peu trop plaintif, j'ai trouvé M. Odgers assez plaintif ces deux dernières minutes. Ceci étant, je partage absolument son point de vue sur une chose, c'est qu'avant de parler des distributions de sièges, il faut parler de deux autres choses. D'une part, c'est les idées pour lesquelles on travaille, et je crois qu'on a sur beaucoup de domaines des idées qui sont proches. Si on a envie de s'engager pour une société plus ouverte, pour une société plus sociale, pour une société où on est d'accord que l'État doit faire quelque chose pour l'emploi, pour une économie forte, il faut des forces pour le faire, et bien on comptera le 23 octobre au soir, quelles sont les forces qui le font. Ce qu'on sait aussi, c'est que si on veut avoir une chance d'avoir un conseiller fédéral qui aujourd'hui est nettement plus à droite que le Parlement, et si on veut avoir une chance que ce conseiller fédéral soit plus proche des majorités effectives au Parlement, ça peut signifier 2 PS plus un vert, ça peut signifier un renforcement aussi d'autres forces politiques qui vont dans cette direction-là. Ça signifie en un tout premier temps que le Parti socialiste d'une part, le Parti écologiste aussi, doivent ressortir, renforcer le 23 octobre, éventuellement 2 ou 3 semaines plus tard
avec
les élections.
Jean-François Taillard, ne répondez pas à Antonio Edgers. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas ce qu'il vous demande de dire 2 plus 1? Oui, on veut un vert au Conseil fédéral.
Mais évidemment que si on peut faire 2 plus 1 et qu'on a les forces pour le faire au soir du 23 octobre, on va le faire avec plaisir. Vous avez vous-même dit il y a 5 minutes, il faut d'abord voir quelles sont les forces qui sont issues des élections. Alors, si on a ensemble 20 ou 25% des voix, ben évidemment qu'on ne va pas faire 3 sièges ensemble au Conseil fédéral. Donc il faut d'abord le paquet nécessaire et il faut que la population, le 23 octobre, se prononce pour donner les forces suffisantes pour essayer de faire ça.
Antonio Edgers, François Taillard dit 25%, ça ne suffira pas pour 3 sièges. C'est un peu la mathématique aussi, non?
Évidemment, mais la mathématique aujourd'hui, elle est de notre côté. Elle est déjà, durant cette législature actuelle, hein, avant de parler de la législature suivante, déjà de notre côté, puisque aujourd'hui, numériquement, avec environ 10% des voix du Parlement, les Verts devraient avoir le droit à un siège au Conseil fédéral, en tout cas plus que le Parti libéral radical, qui avec 17% en a 2. Et qu'est-ce que je constate à la lecture des résultats des dernières élections du Conseil fédéral, notamment de M. Schneider-Hamann, où les Verts avaient une candidature, c'est qu'au troisième tour, hein, puisque les deux premiers tours sont des tours de chauffe, hein, au troisième tour, notre candidate a obtenu 28 voix. Or, il y a 24 Verts dans l'Assemblée fédérale. Ça veut dire qu'en tout et pour tout, il n'y a que 4 socialistes qui ont voté pour notre candidate, et ça veut dire que les 45 autres socialistes ont voté pour soit Schneider-Hamann, soit Mme Keller-Souter, donc ont préféré un représentant des partis bourgeois à la candidature verte. Et nous, notre crainte, c'est que ce scénario se répète. Alors moi, j'entends M. Steyer, M. Levrac qui disent « oui, attendons le 23 octobre ». Ils ont parfaitement raison, il faut attendre le 23 octobre et voir quel est le rapport de force. Mais on sent déjà à travers cette élection qui est en ligne de mire au mois de décembre du Conseil fédéral qu'il faudra mobiliser. Et finalement, nous, ce qu'on attend de notre premier partenaire politique, le PS, c'est qu'il soit aussi notre premier soutien.
Jean-François Steyer, faut faire
aujourd'hui,
quelque
on a
chose
la peine
aussi.
À obtenir bon. cette déclaration quand même.
Monsieur Rogers, continue un petit peu sur le côté de la plainte. Je pense que si on est tous plus offensifs, on a plus de chances d'arriver au résultat qu'on vise mutuellement. Ça fait passablement de temps que le Parti écologiste représente régulièrement des candidates et des candidats au Conseil fédéral. Il y a eu Mme Bühlmann de Lucerne qui est venue à de nombreuses reprises, qui a toujours été soutenue intégralement par le Parti socialiste. Il y a eu M. Recournois ensuite à plusieurs reprises, soutenu intégralement par le Parti socialiste.
Vous vous souvenez de la dernière, Jean-François Steyer ?
Je me souviens très bien de la dernière. Monsieur Rogers vient de l'évoquer.
Mais il n'a pas dit son nom.
C'était Madame Weiss. Nous l'avons, peut-être que lui l'a oublié, nous pas. Ceci étant, nous avons soutenu Madame Weiss jusqu'au moment où le choix était à faire entre soutenir une candidature dont le président du Parti écologiste lui-même disait elle a malheureusement aucune chance et voter un tout petit peu utile entre deux candidats du Parti radical dont un était un petit peu plus proche, un petit peu plus éloigné de nos idées. Je pense que c'est des choses qui vont aussi jouer. Encore une fois, le Parti écologiste a tout intérêt, d'une part, à ce qu'un PS ressorte fort des élections fédérales, parce que ça nous donnera d'autant plus de poids dans le soutien d'une candidature verte. J'ai pris note aussi avec beaucoup d'intérêt, de plaisir, de ce que vient de dire Antonio Rogers, c'est que, contrairement à certains de ses collègues alémaniques qui, dans la N77 et d'autres journaux, disaient ouvertement, ma foi, il faudra envisager avec l'UDC d'aller piquer un siège aux socialistes, je constate avec plaisir que ce discours-là n'est plus tenu et qu'on nous promet à peu près le contraire. C'est un bon début pour une bonne collaboration après le 23 octobre.
Ouais, mais on devine, Antonio Rogers, vous ne l'aurez pas, ce siège parti comme c'est là, avec les socialistes.
Mais vous avez bien synthétisé la posture du Parti socialiste. Ils font semblant de nous soutenir sans nous soutenir. Et
mais
moi,
qu'est-ce que vous voulez de plus qu'un vote pour votre candidat?
Mais on ne l'a pas eu, M. Steyert. Et même M. Recordon s'était retiré pour laisser la place à Mme Wiedmer-Schlumpf-Lever. On a toujours été les Winkelried de ces élections au Conseil fédéral pour la cause. Et la cause, c'est laquelle? C'est d'une part maintenir les deux sièges du Parti socialiste ou d'autre part avoir une stratégie pour évincer Blocher. Et on s'est chaque fois sacrifié pour ça. On le fait volontiers parce que pour nous, l'objectif du Conseil fédéral, c'est pas juste le pouvoir pour le pouvoir, mais c'est d'avoir des majorités pour aller dans ce qui nous semble être le bien commun pour la Suisse. Or, aujourd'hui, quand j'entends le Parti socialiste dire qu'il veut redonner un deuxième siège à l'UDC, ça veut dire donner une majorité UDC libérale radicale à ce pays au niveau du gouvernement, ça veut dire réintroduire le nucléaire, ça veut dire réintroduire toute une dimension antisociale. Et ça, c'est vrai que ça nous pose problème. On aimerait entendre le Parti socialiste qui dise aujourd'hui vivement qu'on gagne les élections avec les Verts.
Votre président
comme
a dit,
ça,
Roger,
nous serons, si comme aussi, ça, nous serons
ça
plus
vous
forts
en est pas.
Tous ensemble.
Merci.
Oui, c'est vous qui m'avez interrompu, M. Steyer.
Oui,
merci.
Mais vous êtes long.
Allez-y, Jean-François Steyer, soyez court.
Si vous me donnez le même droit qu'à M. Rogers, qu'on a encore pour la nuit.
Vous l'avez eu. Allez-y.
Non. Votre président et vous-même dites nous souhaitons une représentation au Conseil fédéral qui soit à peu près proportionnelle à l'électorat. Vous revendiquez le siège vert en disant nous avons une représentation qui correspond avec 10% à un siège. On peut dire qu'il en faut 14, mais je vous souhaite bon succès à nous d'ailleurs aussi pour que nous ayons ensemble la force pour avoir les deux sièges et le siège vert avec. En même temps, vous contestez à l'UDC qui a largement de quoi faire deux sièges, le droit à avoir ces deux sièges. Il ne me semble pas très logique de dire d'une part, l'UDC n'a pas le droit à deux sièges au niveau des pourcentages et nous avons le droit. Nous avons une manière un petit peu différente d'aborder les choses. Je pense qu'il est tout à fait possible et envisageable que si l'UDC reste un parti qui tourne à pas loin de 30%, et elle a un droit, si on est dans une mathématique que vous revendiquez, à faire deux sièges, et que si le Parti écologiste fait 12-13%, ou si la gauche ensemble a de quoi faire trois sièges en pourcentage, ce qui est tout à fait possible, on est deux sièges socialistes et un siège écologiste avec les deux sièges de l'UDC. Je pense qu'il faut être un tout petit peu ouvert. Au lieu de parler siège siège par siège, on doit quand même, et je crois que c'est notre mission première, nous engager pour des idées, et nous avons encore une fois un programme qui est 90%.
Pour conclure, si vous le voulez bien, Jean-François Steyert, Anthony Hodgers, on a pu entendre ce dimanche que les socialistes, d'après encore la presse alémanique, et puis quelques oreilles qu'on laisse traîner au Palais fédéral avec nos journalistes sur place, que les socialistes préféraient évincer Johann Schneider-Hammann, Kevin Wilmer-Schlumpf. À chacun, je vous pose cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anthony Hodgers?
Ben, c'est intéressant que le Parti socialiste veuille donner un siège du Parti radical à l'UDC, alors qu'il pourrait dire on veut donner ces sièges du Parti radical au Vert. Donc je crois que c'est juste la démonstration de mes propos, en fait.
Jean-François Steyert, Johann Schneider-Hammann, et puis on laisse Evelyne Wiedemer-Schlumpf en poste, parce qu'elle est anti-nucléaire, notamment.
Alors, manifestement, M. Hodgers n'a lu qu'une partie de ce qui a été écrit dans la presse alémanique. Nous avons simplement dit qu'il est possible que M. Schneider-Hammann ou un des deux sièges radicaux disparaissent parce que le parti radical a une force qui ne correspond de loin pas à deux sièges. J'ai eu une interview dans plusieurs journaux alémaniques dans laquelle j'ai chaque fois évoqué la possibilité que le siège, si les forces sont là, passe au Parti écologiste. Je vous remercie d'en prendre note.
Eh ben, écoutez, on prendra rendez-vous pour voir ce qui se passe au 23 octobre. Et puis le 14 décembre, vous êtes prêt, Jean-François Steyert, pour la fête à Belfaux le 14 décembre. Vous êtes un élu le fribourgeois, vous êtes concerné au premier chef.
Nous avons un excellent candidat fribourgeois, les Vaudois ont un excellent candidat aussi, qui heureusement est un tout petit peu fribourgeois aussi. J'ai dit aussi publiquement que mon cœur bat un tout petit peu plus pour le canton de Fribourg où je me trouve. Mais encore une fois, le Parti Socialiste a la chance d'avoir beaucoup de gens compétents, peut-être trop, mais c'est plutôt une chance qu'autre chose.
Ouais, pour conclure là-dessus aussi, Anthony Hodgers, on avait vu avec la succession Couchepin, on avait un peu les journaux, l'Express qui roulait pour Burkhalter, il y avait la Tribune de Genève qui était pour Luchaire, canton de Vaud 24 heures, c'était Broulis. Ça se cantonalise un petit peu, on a aussi évoqué la rivalité Fribourg-Arc-Lémanique. Vous sentez ça monter? C'est un argument qui va jouer, à votre avis?
Mais je crois que de moins en moins. Hein. C'est vrai que c'est une vieille tradition suisse, le régionalisme, au niveau de l'élection au Conseil fédéral. Mais les mêmes journalistes avaient pronostiqué l'impossibilité d'une élection de deux Bernois le même jour. Pourtant, c'est ce que le Parlement a fait. Donc, je crois qu'il y a toujours un peu cette dynamique de fond au niveau des cantons, mais elle est de moins en moins présente. Et en tout cas, je pense que l'Assemblée fédérale, les députés de l'Assemblée fédérale, élisent beaucoup plus les candidats pour leur programme que pour leur origine cantonale.
Anthony Hodgers, c'est Jean-François Steyert. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez en direct du Palais fédéral, où on retrouve d'ailleurs Vincent Bourquin. Vincent Bourquin, on a entendu ce débat, parfois un petit peu animé, entre un vert et son allié socialiste. C'est assez tendu, ce qui se passe en coulisses là-bas?
Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce débat rappelle celui de la succession d'Hans-Rudolf Merz. On sait effectivement qu'à la fin, Brigitte Wiss avait été peu soutenue par les socialistes. Et puis là, les Verts, ils ont compris la leçon. Hein. Brigitte Wiss était vraiment une inconnue. D'ailleurs, du côté socialiste, on n'était pas très content de ce choix. Et là, tout de suite, les Verts ont dit, probablement, le candidat sera Guy Morin. On dit aussi Bernard Poulvert, mais malgré tout, il y a déjà deux Bernois. On parle aussi de Ruth Genner ou de Robert Kramer. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les Verts devraient proposer Guy Morin. Donc, comme ça, on répond déjà à une des critiques de la part des socialistes. Et c'est vrai qu'on la sent, hein, cette tension. Cette tension, on la sent un peu par rapport à la succession, mais aussi dans la campagne. On sait, par exemple, qu'un argument qui énerve beaucoup les socialistes, c'est lorsque les Verts, dans leur campagne, disent que depuis 20 ans, ils sont les seuls à s'être battus pour le nucléaire. Un certain nombre de candidats Verts l'ont dit, et ça énerve beaucoup du côté socialiste. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que les scénarios d'un Vert au Conseil fédéral, on en est très loin. On l'a entendu tout à l'heure. D'ailleurs, tous les plans qui se font, notamment du côté du Parti socialiste, c'est éventuellement pour évincer un radical, mais c'est surtout en principe pour remplacer Evelyne Wiedemer-Schlumpf par un UDC et pas pour mettre un vert.
Ouais, Vincent Bourquin, vous êtes baladé dans les pas perdus aujourd'hui, début de la session d'automne, très attendu d'ailleurs. On a vu les candidats déjà, déclarer ou non, se montrer quelque peu.
Alors on en a surtout vu un, Alain Berset, tous les regards d'ailleurs étaient tournés vers lui. Il est arrivé vers 16h dans la salle des perdus du Conseil national, alors que lui est au Conseil des États. Il a fait une petite tournée, il est allé serrer la main de quelques journalistes, de quelques parlementaires. Je lui ai demandé s'il y avait une certaine pression sur ses épaules, il m'a dit non, comme d'habitude, je vais aller boire un café avec Didier Berbera, comme avant chaque séance, et puis ensuite je vais faire mon travail de parlementaire. Mais on sait, et on l'a senti aussi aujourd'hui, qu'il a un grand avantage sur Pierre-Yves Maillard, c'est vraiment le fait d'être à Berne. Il va rencontrer beaucoup de gens ces prochaines semaines lors de la session. Et d'ailleurs, un des parlementaires très très en vue sous la coupole nous a dit aujourd'hui, à mon avis, sa cote à Alain Berset est ce soir à 10 contre 1. Donc il est vraiment le grand favori pour l'heure actuelle.
Oui, 10 contre 1, effectivement. Je le disais tout à l'heure, Belfaux, le 14 décembre, on verra bien. On y sera en tous les cas à Berne pour cette élection. Merci beaucoup, Vincent Bourquin.
Infotrafic RSR.
Sous le contournement de Genève, on roule en accordéon entre le tunnel de Vernier et la jonction de Genève Aéroport en direction de Lausanne. La voie de gauche est rouverte sur ce tronçon. Le trafic devrait reprendre normalement sous peu.
L'aéroport international de Genève est au cœur d'une nouvelle polémique. La société SPS, qui depuis quelques années assure l'accueil, la sécurité et la fouille des passagers, vient de voir son mandat non renouvelé à l'issue d'un appel d'offres. C'est la société concurrente, ISS, pourtant plus chère, qui remporte le marché, qui se chargera désormais de ce travail au sein de l'aéroport. Une nouvelle donne contestée par l'entreprise SPS, qui va faire appel contre cette décision. Une décision qui l'oblige à procéder à un licenciement collectif. Sylvie Bazer.
Oui, c'est un peu l'incompréhension qui règne du côté des employés de la société SPS Sécurité, mais aussi de sa direction. Son mandat d'accueil et de fouille des passagers, qu'elle assure depuis plusieurs années à l'embarquement, n'est pas renouvelé, vous l'avez dit, à l'issue de l'appel d'offres, mais au contraire confié à une autre entreprise, la société ISS. Et là où le bât blesse, c'est que l'offre choisie, en l'occurrence celle d'ISS, est plus chère, passablement plus chère, de l'ordre de 500 000 francs par an, selon les indications de SPS, qui a perdu le marché. À cela s'ajoute le fait que les prestations d'ISS, même si l'entreprise cherche à se diversifier, sont prioritairement le nettoyage et non pas l'accueil ou la sécurité, d'où une certaine incompréhension également sur ce plan-là. Suite à cette décision, l'entreprise SPS a donc averti l'Office cantonal de l'emploi qu'elle allait procéder à un licenciement collectif. Une soixantaine d'employés sont concernés sur les 200 personnes que compte la société. Le mandat de l'aéroport représente en effet à peu près un tiers de son activité. Des employés qui pourraient toutefois être repris par ISS, mais dans une certaine mesure seulement. Du côté de l'aéroport, l'argumentation est bien différente. L'appel d'offres permet d'évaluer au mieux les prestations proposées par différentes entreprises, le prix n'étant qu'un élément parmi d'autres dans le choix d'un prestataire de service. Peu convaincu par ces arguments, SPS Sécurité a donc décidé de faire recours, aujourd'hui encore, contre la décision de l'aéroport.
Merci Sylvie Belzer, en direct de Genève.
Et puis à 18h38, on va s'intéresser à la situation d'Israël au Proche-Orient avec deux invités. Pascal de Crouza qui nous a déjà rejoint. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient. Zvi Mazel va nous rejoindre, ancien ambassadeur d'Israël au Caire de 96 à 2001. Laurent Keller, parce qu'il faut dire que la situation d'Israël est au centre des observations en ce moment au Proche-Orient.
Oui, dire d'abord que le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, critique virulent d'Israël, entame aujourd'hui une tournée dans les pays du printemps arabe. Première étape ce soir au Caire, où se tient la réunion de la Ligue arabe. Le Caire, qui est devenu le cœur d'une intense activité diplomatique autour de la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU, le Caire où, on le rappelle, l'ambassade d'Israël a été attaquée par des manifestants samedi dernier. Bref, d'intenses changements ont lieu dans la région depuis le début des révolutions arabes. Des changements qualifiés par la presse israélienne comme un tsunami pour l'État hébreu. En tout cas, un chamboulement complet de l'équilibre géopolitique de la région.
Pascal de Crouza, est-ce qu'Israël doit s'inquiéter du fait de perdre un ami, c'est la Turquie, en perdre peut-être un autre, l'Égypte, isolé plus que jamais, c'est dangereux pour Israël ou pas?
Alors certes, il y a une détérioration assez importante de la situation régionale d'Israël avec la perte de l'allié turc et une situation qui devient assez volatile, voire hostile en Égypte. Mais on est surtout frappé par ces évolutions spectaculaires et les déclarations un peu intempestives de part et d'autre. Il faut quand même noter aussi que le printemps arabe semble, sur d'autres fronts, déboucher à un allègement de la menace pour Israël. On voyait en effet se dessiner un rapprochement lors de la fin de l'hiver, lors du printemps, entre d'une part la Turquie avec la Syrie alliée de l'Iran, et tout cela dans une perspective de retrait américain de l'Irak qui aurait pu nouer des relations, qui a amélioré ses relations avec les Iraniens. Donc on voyait se dessiner une espèce de bloc assez menaçant pour Israël. Et bien ce bloc est en train de partir un peu à volo, puisque la répression sanglante menée par le régime de Bachar el-Assad fait que les Turcs, qui étaient en plein rapprochement avec les Syriens, qui avaient signé des accords de libre-échange économique, mais aussi qui s'apprêtaient à faire des manœuvres militaires, bien la Turquie a pris ses distances. Donc c'est vrai, Israël perd face à la Turquie et l'Égypte, mais gagne un peu avec un front, les relais de ses principaux ennemis, le Hamas et le Hezbollah. Le régime syrien actuellement est surtout accaparé par sa survie et pas tellement par aider les Iraniens à projeter leur puissance contre Israël.
Zvi Mazel nous a rejoint, ancien ambassadeur d'Israël au Caire de 1996 à 2001. Zvi Mazel, vous êtes d'accord avec cette vision assez balancée, finalement? Ok, il y a peut-être la Turquie qu'on perd comme ami, mais la situation n'est pas aussi noire que ça pour Israël. On gagne peut-être ou on perd d'autres ennemis.
Vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas de doute que la Turquie a fait un effort de se rapprocher de l'Iran et de la Syrie. Et maintenant, ça ne marche plus. Elle voit que ce sont des pays avec lesquels, sur lesquels on ne peut pas compter. Alors, elle essaie de se rapprocher de l'Égypte. Mais l'Égypte se trouve d'ailleurs en très mauvaise situation après les démonstrations, après les manifestations, après cette révolution. Et je ne crois pas que l'Égypte ait intérêt à se rapprocher trop de la Turquie. L'Égypte a un accord de paix avec Israël, l'Égypte a une frontière commune avec Israël, l'Égypte a l'histoire de Gaza, où il y a des terroristes. Donc même l'alliance que les gens disent entre Turquie et l'Égypte, ce n'est pas quelque chose de déjà gagné ou fait, absolument pas. Donc la situation n'est pas aussi mauvaise que ça, mais quand même, en Israël, ça se sent assez mal quand on voit les attaques d'Erdogan, le premier ministre de la Turquie, nous attaquait tous les jours comme ça. C'est mauvais, mais c'est pas aussi mauvais que ça.
À la lueur de ces changements, Pascal de Crouza, est-ce que le gouvernement israélien, déjà une nouvelle ligne de politique étrangère, y travaille activement ou est-ce qu'elle est un peu perdue par rapport à ces changements?
Eh bien, pour l'instant, on a l'impression que le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, semble être conforté dans une certaine vision du monde selon laquelle les traités de paix sont des chiffons de papier, les alliés régionaux sont pas fiables, que l'on ne peut compter que sur soi, et que surtout pour survivre, eh bien, il faut survivre par la force, par un usage démonstratif de la force qui effraie les adversaires et les dissuade d'entreprendre des actions hostiles à Israël. Alors, le problème avec cette approche, qui semble être celle du chef de la diplomatie israélienne, c'est qu'il est dans une région dans laquelle on a un sens de l'honneur sourcilleux qui va de pair avec le patriotisme. Et dans ce genre d'approche, eh bien, plutôt que susciter l'effroi parmi les adversaires, eh bien, une politique qui met trop l'accent sur la force suscite plutôt le désir de laver les affronts faits à l'honneur national. Et quand le gouvernement israélien a refusé de présenter des excuses officielles pour les morts turcs, eh bien, ça a plutôt suscité en Turquie une envie de laver l'affront fait à l'honneur national et de continuer une escalade verbale un peu avec Israël.
Mathieu Mazel, c'est vrai que si on essaye de miser sur la force, après on est un peu forcé de rester toujours les plus forts, parce que le jour où on est plus faible, tout le monde nous le fait payer ensuite largement. C'est un peu le dilemme d'Israël. Si on n'a plus d'alliés, on est obligé d'être le plus fort, on y est condamné.
C'est vrai, au Moyen-Orient, il faut être les plus forts toujours. Et c'est notre destinée. Bien sûr, on ne veut pas plus la force, on ne veut pas faire de guerre, mais quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on comprend qu'il faut être fort, extrêmement fort. Mais en même temps, nous avons essayé de tout faire pour faire la paix avec les pays tout autour d'Israël, chez nous. Donc, on a fait la paix avec l'Égypte, on a fait la paix avec la Jordanie, on a signé les accords, ou rappelé l'accord d'Oslo avec les Palestiniens, croyant que ça va arriver à la paix. Et pourtant, il y a des problèmes. Et les problèmes, si j'ai le temps de vous dire, écoutez, les problèmes ne sont pas seulement des problèmes de politique. Il y a un problème de l'islam, il y a les traditions arabes, il y a tout cela, il y a l'incitation contre Israël, il y a l'éducation à l'école à partir de l'âge de 6 ans, que l'islam est supérieur, surtout que les juifs sont les ennemis d'Allah et tout ça. Il y a des problèmes extrêmement
graves. C'est la guerre des civilisations, si je vous entends bien.
Exactement. Alors, nous essayons de faire ce qu'on peut. Et actuellement, d'ailleurs, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on était un peu, d'ailleurs, optimiste quand on a vu les premières manifestations en Tunisie, en Égypte. Et puis après, tout a été pris par les forces radicales qui ont été libérées.
Mais Tim Mazel, si un jour, face à ce front que vous décrivez, vous n'êtes plus les... Parce qu'il faut avoir à très long terme, quand on dirige un pays, vous ne serez peut-être pas toujours les plus forts. Ce jour-là, ça risque d'être cuisant.
Écoutez, le temps passe. Nous sommes là depuis 62 ans, et je crois pas, prenez l'Égypte. L'Égypte ne veut pas la guerre. Il y a beaucoup de problèmes actuellement en Égypte, c'est vrai, et il y a peut-être la haine contre Israël qui unit les islamistes et les nationalistes extrémistes, ça c'est vrai, mais je crois pas que l'Égypte veut la guerre, parce que la paix, il faut pas oublier, la paix a donné à l'Égypte une stabilité formidable qu'elle aurait dû exploiter pour la modernisation du pays, pour les réformes sociales et économiques qu'elle n'a pas fait. Donc maintenant, peut-être les gens comprendront. Alors, il va y avoir, dans le Moyen-Orient, une période d'instabilité, mais c'est pas nécessairement la guerre.
Pascal de Crouza, vous êtes d'accord avec cette analyse sur l'Égypte, et puis en règle générale, une sorte de conflit culturel, nous dit Tim Mazel, avec l'islam.
Grande question que celle-ci. Non, je pense qu'il y a des accommodements possibles et que même si vous avez peut-être des strates culturelles ou autres qui vous poussent à une certaine hostilité envers votre voisin, c'est des choses qu'on a vu se régler. Enfin, il y avait aussi entre l'Allemagne et la France, ou la France et la Grande-Bretagne pendant des siècles, une hostilité assez fondamentale qui s'est quand même joliment atténuée. Alors on dira bien sûr que les deux sont, que ces différences, ces différents pays sont de cultures beaucoup plus proches que le sont juifs et arabes, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément indépassable. Et dans les années 90, on a vu des moments d'espoir de voir les choses s'améliorer. Si les révolutions arabes devaient véritablement accoucher de sociétés civiles plus fortes, d'une meilleure compétitivité économique, d'une croissance, eh bien, vous auriez des pays qui auraient à perdre et qui donc se montreraient peut-être moins hostiles à l'égard d'Israël. Donc là aussi, il n'y a rien d'inscrit dans les reins ou dans les tables de la loi descendue du Sinaï. Je crois que le jeu est assez ouvert. Il n'y a pas, je crois, d'une hostilité qui est fondamentale et indépassable. Ça dépend des intérêts du moment et aussi des politiques qu'adopte Israël à l'égard de ses voisins.
Pascal de Crouza, je vous remercie beaucoup. Tzvi Mazel également, nous avoir rejoint à quelques instants pour évoquer la nouvelle situation d'Israël au Proche-Orient. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.
Et c'est un scrutin qui fait couler beaucoup d'encre. Les Genevois ont jusqu'à dimanche pour élire un juge remplaçant à la Cour des comptes, l'organe de surveillance de l'État de Genève. Une élection partielle prévue pour 6 mois avant la réélection du collège dans son ensemble. Une élection très polarisée. Un candidat du parti Solidarité, soutenu par toute la gauche, affronte un UDC porté, lui, par l'ensemble de la droite, le PDC compris.
Alors, Yves Nideguer est avec nous, candidat UDC soutenu par la droite, vous l'avez dit, Laurent Keller. Daniel Devaux, gauche de la gauche, soutenu par toute la gauche. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Daniel Devaux, on a un peu de peine à comprendre, c'est plutôt technique, la Cour des comptes, a priori. Que vient faire la politique là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il faut élire plutôt quelqu'un de gauche que M. Nideguer? Pourquoi est-ce qu'il faut vous élire, vous?
Oh, je ne sais pas s'il faut élire quelqu'un de gauche. Il se trouve que la population genevoise, en 2006, a composé la Cour des comptes avec 2 représentants de l'alternative et un magistrat présenté par l'entente. C'est un magistrat de l'alternative qui a démissionné en cours de législature. Il paraissait assez naturel qu'un candidat de l'alternative soit présenté. Il aurait même été sage que l'entente accepte pour l'année qui restait à courir ce magistrat, d'autant que ça représente pour les finances genevoises des dépenses importantes que d'organiser une élection. Et on comprend d'ailleurs
ça aurait été mieux pour vous, on imagine.
Pour moi ou pour celui qui aurait été désigné. On comprend d'ailleurs mal que celui qui se présente comme l'avocat des contribuables trouve normal, pour un an à peine, de faire engager des dépenses aussi importantes.
Yves Nideguer, CQFD, un membre de l'alternative démissionne, il faut le remplacer par un membre de l'alternative aussi?
Non, justement pas. Et puis c'est pas M. Devaux qui s'est présenté contre M. Longet quand il était le seul candidat précisément pour reprendre un siège socialiste, qu'il faut demander son avis sur l'économicité des moyens et la raison de l'utilité ou non d'une élection. Quand on choisit des juges au palais de justice, alors les magistrats de la Cour des comptes ne sont pas des juges techniquement, mais c'est un peu la même fibre, un peu le même genre d'animal. On s'arrange pour avoir des gens qui aient les compétences voulues, parce qu'on exige d'eux des compétences techniques à la Cour également. Et puis ensuite, je siège dans des commissions fédérales à ce sujet, j'ai siégé dans une commission cantonale de même. Ensuite, on s'assure qu'il y ait une représentation politique, parce que les juges ont tous des couleurs quand même, qui soit la plus équitable possible, de sorte à ce que ce pouvoir, qui est un des organes de l'État, soit démocratique au sens où il représente l'ensemble des sensibilités.
Mais dans l'action du juge, après, on doit sentir cette sensibilité dans une Cour des comptes?
En théorie, on ne doit jamais sentir la sensibilité politique d'aucun magistrat judiciaire ou de la Cour des comptes, puisqu'il est là pour être parfaitement impartial. Il n'empêche que c'est toujours un souci que de donner à la population le sentiment que dans tous les rouages importants qui constituent les 3 pouvoirs de l'État, eh bien l'ensemble du spectre de la sensibilité politique du canton soit là. Et on a un déséquilibre très fort du côté de la gauche, puisque la droite, en fait, c'est un peu de sa faute, hein, s'y est mal prise la dernière fois, de sorte qu'on a eu une magistrate socialiste, un magistrat vert, donc 2 de gauche, et puis un PDC, donc quelqu'un du centre. Et tout le spectre qui va de la droite du PDC jusqu'à l'UDC, la moitié du canton en gros, n'a pas de représentant. Alors, Daniel Devaux, que ce représentant se comportera différemment, c'est pour dire qu'il doit exister.
Daniel Devaux, la Cour des comptes aujourd'hui penche à gauche. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment de rééquilibrer en prenant Yves Nideguer, qui pourra peut-être aller fouiller un peu plus du côté des casseroles de certains hommes politiques de gauche à l'État de Genève.
Bon, d'accord. D'abord, par essence, lorsqu'une juridiction est composée de 3 magistrats titulaires, il y a forcément 2/3, 1/3 qui va se dessiner. C'est pas extraordinaire en soi. Et comme je rappelais tout à l'heure, la population en 2006 a décidé que les 2/3 seraient des magistrats de l'alternative. La population nous dira en fin de semaine si elle veut rééquilibrer ou non. Je relève simplement qu'en 2006, elle a fait un choix différent et que l'entente n'hésite pas pour un an seulement à engager des dépenses assez importantes. Quant à la question fondamentale qui est celle de savoir si un magistrat doit pencher à gauche ou à droite lorsqu'il est magistrat, je suis d'avis que le serment qu'il prête ne l'autorise pas, entre guillemets, à faire preuve de partialité. Je ne pense pas qu'un magistrat de la Cour des comptes, comme un magistrat du pouvoir judiciaire, puisse choisir de s'intéresser plus ou d'investiguer plus sur des magistrats de l'exécutif de gauche ou de droite.
Mais
affirmation.
Si je vous comprends bien, Daniel Devaux et Evgeny Deguerre, au fond, on n'aurait pas besoin de vous connaître ou tenter de comprendre ce que vous allez faire à la Cour des comptes pour voter. Il suffirait de se dire où on veut quelqu'un de gauche ou de droite pour la représentativité. Est-ce que vous pouvez nous dire, Evgeny Deguerre, ce que vous voulez faire à la Cour des comptes? Comment vous voyez votre poste? Faire envie aux gens de voter pour vous?
Alors moi, je le vois comme la loi l'a vu. Hein. Je ne vais pas inventer ce poste et il n'est pas de la compétence du magistrat qu'on élit de modifier quoi que ce soit. Il est là pour jouer un rôle. Simplement, dans ces débats qui vont se faire à trois, où l'on dit, voilà, on va lancer une enquête sur tel sujet ou on ne va pas la lancer parce qu'il n'y a pas matière, puis l'enquête faite, on va approfondir l'audit jusqu'au rapport où on ne va pas aller jusque-là, où éventuellement on va classer. Dans toutes ces décisions, eh bien, plusieurs personnes discutent pour arriver à une décision collégiale. Et je suis certain que ce n'est pas du tout la même chose lorsque l'ensemble des avis sont là ou s'ils ne sont pas là. Si vous avez un regard sur l'État, un regard, disons, de gauche, c'est-à-dire qu'un franc dépensé par l'État est toujours mieux dépensé que s'il l'avait été par le privé, vous n'allez pas avoir la même appréciation de certains faits. À l'inverse, si vous pensez que les moyens donnés à l'État sont à la proportion de l'exigence qu'on doit avoir de lui en termes d'efficience et que les contribuables doivent être défendus. La Cour des comptes, c'est un peu le quatrième pouvoir, si l'on veut. Il fut un temps lointain où la presse jouait ce rôle. Aujourd'hui, elle fait
beaucoup d'animation.
Oui, aujourd'hui, on fait beaucoup de distractions, mais faire des investigations, la presse n'en a plus vraiment les moyens. D'ailleurs, tous les journalistes s'en plaignent à juste titre.
Il y en a ou deux qui essayent quand même.
Et là, on a des gens qui reçoivent la compétence, le pouvoir d'investigation et les moyens d'aller au fond des choses sur l'aspect financier. Alors, ce n'est pas tout l'aspect financier, mais c'est déjà beaucoup de choses. J'ai lu, par exemple, dans un des rapports de la Cour sur l'informatique de l'État. Moi, j'étais parlementaire à la Commission des Finances et je me souviens très bien du sentiment que nous avions lorsque nous votions des crédits, que ces trucs étaient sans doute un peu chers. Mais nous n'étions pas en état de dire pourquoi et combien. À la lecture du rapport de la Cour, on voit tout ce que peut apporter cet organe lorsqu'il a investigué et qu'il fait la preuve des choses.
D'accord, on ne va pas allonger inutilement les temps de parole de chacun. Daniel Devaux, pour vous redonner la parole, est-ce que vous voyez ça comme Evgeny Deguerre? Est-ce que vous correspondez à l'image qui se fait de quelqu'un de gauche, que pour qui un franc dépensé par l'État vaut mieux qu'un franc dépensé par les privés? Vous allez devenir un juge de ce genre-là?
Écoutez, j'ai 15 ans d'expérience de magistrature, je n'ai jamais senti dans aucune de mes investigations financières passées comme juge d'instruction d'affaires financières complexes qu'un franc avait une nature différente suivant qu'on était élu par, ou qu'on était présenté, pardonnez-moi, par des mouvements de gauche et de droite. Apparemment, M. Nideguerre, qui n'a pas la même expérience professionnelle, a l'air de le pressentir de cette manière-là, l'affirme de cette manière-là, il nous promet qu'il le verra de cette manière-là. Ça ne correspond en tout cas pas à l'expérience que j'ai de la magistrature depuis 15 ans.
Est-ce que vraiment cette élection à la Cour des comptes doit passer par le peuple? On pense à l'élection du procureur général, par exemple. On voit que dans un contexte très politisé, comme celui des élections que l'on vit actuellement, ça prend une dimension un peu exagérée en ce moment, cette élection à la Cour des comptes. Finalement, ça ne mériterait pas autant?
En fait, ça résulte de ce que l'entente a voulu, un deal pour le Conseil des États. C'est vrai que sans ce deal, on comprend mal.
Vous aussi, vous avez un deal, hein, Daniel.
C'est exactement le même, d'ailleurs.
Je ne pense pas que ce soit exactement le même, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on comprend mal pourquoi, sur une période d'un an, il faille impérativement que Evgeny Deguerre, qui n'a pas beaucoup d'expérience de la magistrature, il faut quand même le dire, soit candidat.
Evgeny Deguerre, pas d'expérience ou peu de la magistrature. Qu'est-ce que vous faites là?
C'est pas faux comme remarque, c'est absurde. C'est-à-dire qu'il faut... d'abord, j'ai rendu une décision de justice, pas comme juge de carrière, pas comme monsieur Devaux, mais comme juge non professionnel, en président au prud'homme, par exemple. Donc le métier, je connais. Et il suffit de lire la loi pour voir que le législateur n'a pas voulu qu'on mette que des juges dans cette institution. Il faut un juge à la Cour des comptes, disait quelqu'un récemment. C'est tellement banal qu'il y en a déjà un, c'est monsieur Geiger. Mais il y a aussi quelqu'un qui vient du monde de l'expertise financière, qui est monsieur Zouin, qui n'a pas de formation de juge, ni d'expérience de juge, ni même de formation de juriste, et qui n'est pas celui dont on parle le moins parmi les trois magistrats actuels. Donc cette idée qu'il faudrait avoir été juge est une idée simplement fausse. Il faut certainement un juge dans le collège, ça me paraît assez logique. Un avocat, ça a la même formation de base qu'un juge, ça n'a pas tout à fait la même expérience politique, c'est vrai, mais par d'autres aspects, c'est plus proche de la réalité du monde vrai que le palais qui, des fois, vit un tout petit peu quelque part entre les terres et le parchemin de sa jurisprudence.
Daniel Devaux, vous êtes entre les terres et le parchemin.
Bon, il reste que la magistrate qui quitte était juge, comme je le suis à la Cour de justice, et personne ne s'est plaint de la présence de deux magistrats du pouvoir judiciaire dans la Cour des comptes. Tout le monde s'est félicité jusqu'à présent de l'excellent travail qui a été fait. Et donc, ça ne paraît pas être un handicap, en tout cas, d'avoir une expérience du pouvoir judiciaire. C'est assez
surprenant. Je suis tout à fait d'accord, tout comme l'inverse n'est pas un handicap non plus.
Voilà un point sur lequel vous êtes d'accord, en tous les cas. Au moins, Yves Nideguer et Daniel Devaux, je vous remercie beaucoup d'être venus vous présenter ce soir à cette étonnante élection à la Cour des comptes genevoise qui fait beaucoup parler, très politique cette année. Yves Nideguer, Daniel Devaux, vous êtes tous les deux candidats. Réponse ce dimanche. Une excellente soirée à vous. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Et puis à 18h58, on va se pencher sur la météo avec Sébastien Dupéret.
Les restes de l'ouragan Katia ont abordé aujourd'hui le nord de l'Europe sous la forme d'une dépression. Les Alpes se maintiennent cependant à l'écart de ce système grâce à la présence d'une crête anticyclonique. Elle devrait continuer d'influencer le temps jusqu'à vendredi malgré le passage de faibles perturbations essentiellement nuageuses. Demain matin, le temps sera assez ensoleillé malgré la présence de bandes brouillard sur le plateau et de passages nuageux parfois denses, notamment sur le nord du pays. Dans l'après-midi, le soleil reprendra le dessus si on accepte quelques cumulus sur les reliefs. Dans la nuit, les passages nuageux redeviendront plus intenses et quelques gouttes pourront tomber sur le Jura et la Joie. Le mercure affichera entre 12 et 15 degrés au réveil, alors que dans l'après-midi, il s'établira entre 24 et 27 degrés. Mercredi, le ciel sera encore passablement nuageux, surtout au nord, mais progressivement, nous repasserons à un temps à nouveau bien ensoleillé et doux, avec entre 22 et 25 degrés. Ces conditions stables et agréables se maintiendront jusqu'à vendredi.
La météo avec le comptoir suisse. Le rendez-vous de la ville et de la campagne à Lausanne, comptoir.ch.
Infotrafic RSR
avec le parking de la Riponne et son service Riponne Express.
Sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud, un véhicule en feu gêne la circulation entre l'échangeur d'Écublanc et la jonction de Lausanne Maladière en direction du centre-ville. En revanche, sur le contournement de Genève, la situation s'est normalisée entre Perly et la douane de Bardonnay en direction de la frontière. Et en ville de Lausanne, la route de Chavannes est rouverte entre le giratoire de la Maladière et le chemin du Bois de Vaux. Les poids lourds sont à nouveau autorisés à emprunter l'avenue de Provence en direction d'Écublanc. Et c'est la fin de cette édition de Forum. Merci à Sandro Lichy et Bernard Combes, à la technique, Laura Dron à l'édition. Vous rappelez demain soir notre grand débat électoral à Lausanne en direct du château. Vous y êtes conviés, c'est en public, c'est en direct. Au château de Lausanne, il y aura tous les candidats au Conseil des États. Autant dire une belle brochette d'invités demain soir pour décider qui vous représentera au Conseil des États pour le canton de Vaud. C'est demain, venez nombreux. Excellente soirée, il est 19h sur la première.